Bienvenue dans Impact Positif. Je m'appelle Sylvia Micaud et je suis ravie de vous accompagner le temps de vous faire découvrir un parcours, une démarche, une personnalité. Pour ce podcast, une seule promesse, donner la parole à celles et ceux qui contribuent à trouver des solutions et à les faire circuler pour réduire les inégalités, mieux vivre ensemble, mieux produire et consommer, protéger la planète. Ils sont entrepreneurs, scientifiques, étudiants, artistes ou simples citoyens. Je veux comprendre leur approche, qu'est-ce qui les a fait bouger, quels sont leurs conseils, que veulent-ils transmettre? Car dans Impact Positif, nous pensons que tout le monde, à son échelle, peut faire bouger les lignes et ça commence évidemment avec vous.
C'était une mini France, cette convention. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'intelligence collective. Vraiment de pouvoir travailler avec des personnes. On n'a pas du tout le même âge, le même parcours, la même expérience, les mêmes études, etc. Et chacun a apporté sa petite contribution pour qu'au final, on sorte un travail qui est colossal.
La Convention citoyenne pour le climat a rendu ses travaux. L'occasion de se pencher sur son fonctionnement et sur le devenir de ses propositions, sur ce qu'elle a apporté d'inédit dans le débat public. Je vous propose d'écouter l'un des membres du comité de gouvernance, mais aussi une citoyenne parmi les 150 de la Convention. Merci infiniment de nous suivre pour cette deuxième saison. Pour me soutenir et continuer à découvrir ces personnalités et leurs projets à impact, abonnez-vous sur iTunes ou sur votre plateforme préférée. Commentez le podcast, partagez-le et notez-le 5 étoiles s'il vous a plu. Cela m'aide à faire grandir ce média. Impact Positif, saison 2, épisode 15. Andiamo. Bonjour, bienvenue dans Impact Positif, le podcast qui sera entièrement consacré aujourd'hui aux travaux de la Convention citoyenne pour le climat. On est ravis d'accueillir Mathilde Himmer, bonjour.
Bonjour Sylvia.
Merci beaucoup d'être avec nous, vous faites partie du comité de gouvernance en tant qu'expert de la démocratie participative. Et nous sommes également avec une des citoyennes qui a participé à ces travaux, c'est Mélanie, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous également. Alors la Convention, elle a rendu ses propositions, elles ont fait énormément parler, on va évidemment y revenir. C'est un travail inédit, jamais des citoyens tirés au sort sur proposition du président de la République n'avait planché hein, des mois durant sur une thématique précise. Alors tout d'abord, Mélanie, quand vous regardez derrière vous, depuis l'appel qui vous prévient que vous avez été tirée au sort jusqu'à ce jour, qu'est-ce que vous dites? Quelle aventure? Et ça a changé quelque part un peu ma vie.
Oui, c'est une aventure extraordinaire, humainement déjà, parce qu'on a pu rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais pu croiser dans notre vie normale. Et puis on a travaillé, c'est vraiment, moi ce qui m'a marqué, c'est l'intelligence collective. Vraiment de pouvoir travailler avec des personnes, on n'a pas du tout le même âge, le même parcours, la même expérience, les mêmes études, etc. Et chacun a apporté sa petite contribution pour qu'au final, on sorte un travail qui est colossal. Et puis, ce que j'en retiens aussi, c'est la prise de conscience sur l'urgence climatique, sur la situation dans laquelle on est. Personnellement, je n'étais pas spécialement... militante pour l'écologie ou quoi que ce soit. Je mangeais un petit peu bio, mais c'était plus par rapport à la santé. Je recyclais mes déchets, mais c'est tout. J'étais pas vraiment sur le sujet de l'écologie en particulier. Et vraiment une claque à la première session quand on écoute les experts, climatologues, etc. Et on prend vraiment conscience de l'urgence climatique, que c'est demain, quoi. On parle dans quelques décennies.
Oui, parce qu'on précise effectivement que les 150 personnes qui ont été tirées au sort sont représentatives de la diversité française et qu'il n'y avait pas évidemment que des militants écolos dans les 150. Vous nous le confirmez, Mélanie?
Ah oui, je vous confirme. Il y avait même des climato-sceptiques. Et puis justement, si on est énormément à avoir pris cette claque, c'est qu'on n'était pas... On n'était pas spécialement sensibilisé sur ce sujet.
Alors Mathilde, comment se sont passés ces travaux très concrètement? Ils se sont étalés sur 9 mois avec plusieurs week-ends de sessions de travail et avec aussi une pandémie dedans. Expliquez-nous.
C'est 9 mois de travail, 7 sessions en tout. La première qui était le week-end du 4 octobre et la dernière du coup qui s'est conclue le 21 juin dernier. À chaque session, c'est un peu une courbe de progression. Qui commence par le diagnostic scientifique, c'est ce que disait Mélanie, la fameuse claque, c'est les scientifiques du GIEC qui viennent dire finalement que disent les scientifiques aujourd'hui sur la question climatique. Le deuxième week-end, c'était celui des obstacles. Puisque tout le monde a l'air de vouloir cette transition écologique, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Troisième week-end, c'était le week-end des solutions, où là ont été présentées à la fois des solutions très locales, à petite échelle, mais aussi des solutions plus macro, des grands leviers d'action. Et à partir de la quatrième jusqu'à la session de fin, ça a été vraiment la délibération à partir de tout cet apport intellectuel entre les citoyens pour construire les mesures qu'ils voulaient proposer aux Français et au gouvernement pour répondre à cette urgence climatique et sociale. Évidemment, la pandémie, elle a mis un coup d'arrêt d'abord dans le calendrier de la Convention, puisque le 3 et 4 avril, ça devait normalement être la fin des travaux de la Convention. Et ce que je trouve extraordinaire et qui montre encore l'engagement des 150 citoyens, c'est que au lieu de rester chez eux et de rien faire et de se dire bon, bah, la Convention, c'est foutu maintenant, place à la santé et à la crise économique.
On s'arrête, on verra ce qui se passera.
Ouais, ils ont pris une décision complètement différente. Ils ont décidé de se rassembler de manière exceptionnelle, tous en ligne. Donc on était sur un Zoom à plus de 150 personnes. Et à ce week-end-là, ils ont décidé de rendre public une déclaration dans laquelle ils faisaient le lien finalement entre la crise sanitaire et la crise écologique, mais aussi sur des guidelines, des orientations à suivre pour le gouvernement sur la relance économique et comment flécher l'argent vers la transition écologique. Et à cette occasion aussi, ils ont voulu participer à l'effort national en transmettant au gouvernement en off, parce qu'elle n'était pas votée, un tiers de leurs travaux qui cochaient trois grands critères. Évidemment, la lutte contre le changement climatique, évidemment, la justice sociale qui est dans leur mandat et qui ne les quitte pas un instant des yeux et du cœur. Et troisièmement, qui sont aussi créateurs d'emplois. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important dans les travaux des 150.
Comment ça s'est passé d'ailleurs avec le président de l'exécutif? Parce qu'on a eu l'impression parfois qu'il n'avait pas été toujours très content des fuites qui avaient pu paraître dans la presse, justement, et qu'il préférait que ça reste entre lui et vous, finalement.
Bah, d'abord, il faut se rappeler d'où vient cette convention. Cette convention, elle est née suite au mouvement des Gilets jaunes et elle n'existerait pas sans le mouvement des Gilets jaunes. Et cette opposition que je considère comme beaucoup d'autres un peu factice entre la question sociale et la question écologique, entre la fin du monde et la fin du mois. Et il faut se rappeler de ça parce que c'est ce qui est présent dans l'ensemble des travaux de la convention. Et c'est aussi ce qui en ressort à la fin, même si certains essaient de caricaturer la Convention en la limitant aux 110 km/h sur autoroute, qui est une des propositions parmi les 150 qui ont été transmises par les membres de la Convention. La relation qu'a le président de la République aux 150, j'ai envie de dire, jusqu'ici, elle a été assez respectueuse. C'est-à-dire que jamais, en tout cas du point de vue du comité de gouvernance, et je ne crois pas au niveau des 150, tu me contrediras, Mélanie, qu'il y a eu d'ordre ou d'influence de la part du gouvernement. Ils ont respecté cette indépendance. Ils ne s'attendaient pas, pour être honnête, à des mesures de la Convention avant la fin du mandat. Je ne suis pas sûre que ça leur ait en effet beaucoup plu. Néanmoins, le président de la République a envoyé, une fois qu'il a reçu, qu'il a vu le contenu, une lettre aux 150 qui dit clairement qu'il s'inspire des propositions des 150 dans certaines mesures qu'il a pu prendre, notamment de conditions sur l'aviation lors de certains plans de finances rectificatifs qui ont été votés ces derniers mois.
Alors l'écologie, l'environnement, on sait que ça déchaîne toutes les passions. Il y a beaucoup de commentateurs qui ont aussi tout simplement critiqué le principe de tirer au sort 150 personnes qui réfléchissent finalement à la place de 67 millions de Français et qui décident à la place des élus. Qu'est-ce que vous leur répondez à tout cela ?
Clairement, c'était une mini-France, cette convention. On est représentatif parce que, justement, il y avait là des personnes, même qui ne vont jamais voter, qui ne sont pas du tout impliquées dans des choses
dans
locales,
citoyenne.
Etc., dans la vie citoyenne. Il y avait des personnes de tous les âges, même des mineurs, voilà, ça allait de 16 ans à 80 ans, pour ou contre telle ou telle chose, on discutait, on n'était pas d'accord, voilà. Donc pour moi, on était totalement représentatif. On a été tiré au sort, mais ensuite, il fallait répondre à certains critères pour justement répondre à cette France-là. Donc oui, chacun représente une partie des Français, en fait, a le profil d'une partie des Français.
Pour compléter ce que dit Mélanie, c'est le tirage au sort, c'est une autre forme de représentation. La France. Ça ne veut pas dire que les élus, faut les jeter à la poubelle et qu'ils n'ont plus rien à faire aujourd'hui en France. Loin de là. Et d'ailleurs, ce n'est pas la posture des 150 qui ont rencontré énormément de parlementaires et qui veulent co-construire et envoyer un certain nombre de leurs propositions avec les parlementaires. Par contre, on voit bien qu'à l'Assemblée nationale, il y a très peu d'ouvriers, par exemple. Il y a un seul ouvrier à l'Assemblée nationale, c'est 20% de la population. Le tirage au sort permet d'avoir une meilleure représentation des classes populaires, des classes qui sont souvent ou qui se sentent peu écoutés et délaissés.
Alors, parmi les propositions, il y a la grande majorité que vous souhaitez voir portée par le Parlement, par les élus. Et puis, il y en a qui nécessiteraient un référendum. On sait que la question, elle n'est pas tranchée. Celle qui introduit, par exemple, le crime d'écocide et celle qui révise la Constitution afin d'y introduire la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, la question du référendum, qui est un mécanisme lourd, elle est critiquée aussi par des associations écologistes. Est-ce qu'elle a été un point de crispation dans les débats ?
Donc, un référendum, ça nous semblait quand même évident parce que comme on nous a donné la parole à nous, on voulait donner la parole aussi aux Français. Après, on a débattu sur qu'est-ce qu'il fallait justement mettre au référendum. Et au final, on a décidé d'envoyer la Constitution on remet entre les Français entre les mains des Français la mère des lois. Donc là, on a envoyé notre loi la plus importante, et puis l'écocide qui est très symbolique. Pour le reste, notre réflexion, ça a été que on veut et on doit laisser la responsabilité aussi à l'exécutif, aux décideurs, au Parlement. On voudrait vraiment que les Français se prononcent sur ce qui est structurant, ce qui est symbolique, ce qui est l'ambition qu'on veut à travers toutes nos mesures.
Alors, il y a 150 propositions qui ont été votées le week-end du 20 juin. Une seule a été recalée, hein, c'est celle qui appelle à la réduction du temps de travail sans perte de salaire, hein, passer de 35 à 28 heures. On imagine que c'est le contexte actuel qui a dû aussi peser dans la balance.
Pour être honnête, elle n'a jamais fait l'unanimité, hein, cette mesure au sein des citoyens. Elle était portée par d'abord une personne, ensuite quelques personnes, mais elle a toujours été très très clivante. Donc, effectivement, c'est la proposition qui a été rejetée, oui. Et le contexte économique, je pense, a été déterminant dans le choix de beaucoup de personnes de la Convention qui hésitaient encore, oui.
Et en tout cas, il y en a qui ont fait beaucoup couler d'encre, hein, comme réduire la vitesse à 110 km sur les autoroutes, vous en parliez à l'instant, Mathilde, taxer les dividendes des entreprises pour financer la transition, réguler la publicité, obliger la rénovation thermique des bâtiments. Est-ce que vous vous attendiez à toutes ces réactions?
On s'y attendait bien sûr parce qu'en fait on se retrouve face au même blocage.
Votre formation d'ailleurs, parce que ça aurait pu aussi.
Non, on n'a pas vraiment eu de formation là-dessus, si ce n'est que en fait on se rend compte qu'on est face au même blocage qu'ont les militants toute l'année, les politiques qui veulent mettre en place des choses pour l'écologie toute l'année. Voilà, on a exactement les mêmes personnes en face de nous, les mêmes blocages. Maintenant, dans ce que j'entends, en tout cas depuis que nos propositions sont sorties jeudi soir, c'est que quelquefois il n'y a pas vraiment d'arguments bien solide, c'est-à-dire que on entend des gens qui critiquent mais qui n'ont pas lu nos propositions, ou alors qui disent il n'y a dans nos propositions que obliger, taxer, interdire, alors que c'est totalement faux. On a vraiment fait en sorte d'avoir un projet qui avec de l'accompagnement, de l'investissement, des aides, de l'information. Enfin, à chaque fois, le but c'est à terme effectivement d'interdire certaines pratiques, mais tout en étant, à chaque fois, en mettant tous les moyens en œuvre pour que ce soit possible et de laisser personne sur le bord de la route et surtout de mettre personne en difficulté.
Oui. Certains ont parlé d'un voyage vers la décroissance. Hein. On a eu effectivement toutes sortes de critiques ces derniers jours. Et quand on vous dit que du côté du MEDEF, vos propositions relèvent plus de l'écologie punitive que de l'écologie incitative, et qu'est-ce que vous répondez à ça également?
Je pense que c'est ce que disait Mélanie, c'est faux, en tout cas c'est ne pas avoir lu, et je pense que personne aujourd'hui en un temps si court peut vraiment avoir lu l'ensemble des propositions de la Convention. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'il y a eu des réactions très rapides de la classe politique, beaucoup commençant leur phrase par « j'ai pas encore lu les 150 mesures, mais ». Si c'est pour faire un commentaire sur des choses que vous n'avez pas lues, abstenez-vous. Parce que quand vous lisez dans le détail, en effet, il peut y avoir, je donne un exemple concret. Quand les 150 disent « on interdit ou on réduit drastiquement les pesticides », à côté, il y a « on accompagne les agriculteurs à le faire pour qu'ils puissent avoir un salaire digne », ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et on permet à tout le monde d'avoir accès à du bio pas cher, avec par exemple une TVA réduite sur les produits bio de circuit court. Ça, c'est quelque chose qui, quand on le dit dans son intégralité, donne envie, construit le monde d'après, dans lequel et les agriculteurs et les distributeurs et les citoyens, et je veux dire les clients, pardon, sont gagnants. Donc ça construit le monde de demain. Quand on s'arrête juste à on interdit ou on réduit drastiquement les pesticides, c'est sûr que ça apparaît comme de l'écologie punitive, mais c'est un peu facile de réduire à chaque fois et de prendre uniquement à chaque fois la chose qu'il faut arrêter. Car oui, pour passer d'un monde à un autre, il y a des choses qu'il va falloir arrêter et d'autres qu'il va falloir créer, renforcer, poursuivre et développer. C'est ça que disent les citoyens, c'est que à la fois, oui, il y a une partie de l'écologie qui peut créer de l'emploi, on voit dans la rénovation thermique des bâtiments, il y a un gisement d'emploi énorme, sur tout ce qui est véhicule électrique, il y a un gisement d'emploi énorme, sur tout ce qui est agriculture, agroécologie, il y a un gisement d'emploi énorme, donc c'est pas a priori de la décroissance en termes de PIB, par contre, ils appellent aussi de leur vœu une croissance différente. Et donc peut-être penser à qu'est-ce qu'on calcule derrière ce mot de croissance et qu'est-ce qu'on met derrière.
Oui, c'est comme l'obligation de la rénovation thermique des bâtiments. Effectivement, vous avez aussi prévu des mesures d'accompagnement pour les personnes qui ne pouvaient pas non le faire. On vous reproche aussi qu'il n'y ait pas assez de chiffrage, effectivement, qu'il n'y ait pas effectivement de mesures économiques globales pour financer toutes vos propositions. Ça faisait partie de votre job ou pas, ça ?
Oui, oui, pourtant, ça, pareil, ça sera c'est dans le livrable final. On a presque 80 propositions de financement où on a pu discuter de tout. Il n'y avait absolument aucun tabou. Tout le monde a pu réfléchir à sa proposition et on les a ensuite votées pour voir lesquelles étaient, lesquelles faisaient plus l'unanimité ou non. Donc, on a prévu les financements et je dois même dire qu'on a même bien plus que ce qu'il faudrait pour la transition écologique.
Ce que leur ont dit les experts qui les accompagnaient quand les citoyens demandaient, bon, alors concrètement, c'est quoi les grands mécanismes financiers sur lesquels on peut s'appuyer pour aller chercher de l'argent ? La réponse des experts a été assez claire. On ne manque pas d'argent. Le problème qu'on a, c'est le fléchage de l'argent vers les bons dispositifs et vers la transition écologique. Et en effet, il n'y a pas de chiffrage mesure par mesure. C'est-à-dire que on n'a pas soumis les citoyens à ce à quoi les élus sont soumis, de, pour chacune des propositions, avoir le budget à côté, j'ai envie de dire, à la virgule près du centime près. En revanche, il y a des grandes orientations, c'est ce que disait Mélanie dans le rapport, qui montrent à nouveau une envie de justice sociale extrêmement forte dans le pays, et où on a une transition écologique qui ne se fait pas sur le dos des plus démunis, mais plutôt qui fait contribuer les personnes ou les acteurs qui ont aujourd'hui le plus de moyens. En tout cas, c'est comme ça que j'ai lu, je parle sous contrôle, Mélanie,
ouais,
vos propositions.
Ça.
Que souhaitez-vous que ces propositions deviennent, Mélanie ? Le président a promis de les reprendre sans filtre. Elles doivent encore être discutées, selon vous, aménagées ? Considérez-vous qu'elles sont à prendre telles quelles ou pas ? Quel est votre sentiment, le sentiment global des 150, d'ailleurs ?
Pour nous, oui, on espère que ça sera soumis sans filtre et qu'il n'y aura pas une sélection de mesures parce que c'est un ensemble systémique, ce qu'on a fait. On ne peut pas en tirer quelques-unes les plus simples ou les plus faciles à faire accepter. C'est vraiment un ensemble, donc on espère que ça sera que tout sera pris en compte, bien sûr.
L'ensemble des 150 mesures.
Après, on est prêt à les défendre, à en discuter éventuellement avec le Parlement, si besoin.
Alors, Élise. Oui. Ce que disent les 150 et qui revient souvent dans les discussions, c'est que c'est un socle de mesures cohérents, ambitieux, qui marchent ensemble. Enlever un bout, c'est enlever une partie de la cohérence. Néanmoins, clairement, dans tout ce qui a été proposé, il y a des propositions d'ordre différent. Il y a des mesures qui ont la traduction juridique, qui là peuvent passer sans filtre totalement demain, qui sont prêtes à l'emploi, entre guillemets. Il y a des mesures qui sont de l'ordre plus de recommandations, parce qu'elles s'adressent plutôt au niveau européen, par exemple. Il y a des mesures qui sont plus de l'ordre réglementaire et qui là du coup vont passer par la voie réglementaire par les pouvoirs publics et le gouvernement. Donc à chaque fois évidemment c'est un fléchage et un niveau différent, mais il y a un socle de mesures qui est cohérent et l'attente des 150 c'est que le président de la République et le gouvernement fassent preuve du même sérieux sur l'engagement qu'ils ont pris de passer sans filtre ces mesures à la voie référendaire, réglementaire et parlementaire, que eux ont fait preuve de sérieux dans l'ensemble de leurs travaux.
Alors, Elisabeth Borne a déclaré que certaines de ces mesures pourraient figurer dans le plan de relance présenté à la rentrée. Elle a encouragé votre travail, elle l'a souligné. Mais elle a aussi dit que vous alliez trop vite, trop loin. Est-ce que vous avez eu aussi ce sentiment ?
Mais je dirais qu'on est, on va vite et loin parce que c'est la situation qui est comme ça. On n'a pas le choix. Les scientifiques disent qu'il nous reste 10 ans pour agir. Donc, on a été ambitieux, mais à la hauteur de l'enjeu qui est face à nous.
C'est révélateur d'une chose, c'est que souvent, les politiques disent on ne peut pas être aussi ambitieux parce que la population n'est pas prête. Là, on voit bien que finalement, les citoyens sont davantage prêts que nos élus, qui sont certainement soumis aussi à des pressions et à des contraintes que des citoyens tirés au sort n'ont pas. Mais ça, je pense que c'est extrêmement important parce que pour avoir travaillé auparavant dans les négociations internationales, c'est l'argument numéro un qui est avancé par tous les États pour ne rien faire ou faire assez peu sur les questions climatiques, c'est « mon peuple n'est pas prêt ». Et donc de prouver par une assemblée citoyenne que « bah non, c'est faux ». En fait, là, on a des citoyens représentatifs de la diversité de la société française autant de femmes que d'hommes, des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, des ouvriers et des cadres sup, des personnes qui vivent dans les grandes villes et des personnes qui vivent dans les zones rurales, tout ça dans les mêmes proportions que dans la France, et qui disent clairement, si, on est prêt, mais par contre, il faut que l'information et le diagnostic scientifique, la claque que se sont pris les 150, elle soit transmise finalement à l'ensemble de la société française, d'où l'utilisation du référendum. C'est comment est-ce qu'on fait passer les débats et ce qu'ont vécu les 150 au sein du CESE pendant cet week-end à l'échelle de la France.
Oui, et comment on fait justement, parce qu'effectivement, les 66 millions de Français n'auront pas eu ces formations, n'auraient pas eu contact avec ces scientifiques, n'auront pas été finalement immergés dans les sessions de travail qui ont été les vôtres et qui ont finalement créé un déclic chez vous. Comment est-ce qu'on fait ?
Ben, si on regarde ce qui s'est passé en Irlande, où il y a eu une assemblée de citoyens tirés au sort, puis un référendum qui ont permis la légalisation de l'avortement dans un pays catholique où cette question crée énormément de tensions. Eh bien, on a vu que pendant la campagne référendaire qui s'est produite, le débat qui avait eu lieu au sein des, pour le coup c'était 99 citoyens tirés au sort, a irrigué le débat de la campagne référendaire. Et c'est ça un peu qu'on attend, et quand on a designé le process, c'est en imaginant ça, c'est de se dire... comment est-ce qu'on fait maintenant ressortir les débats, tout ce qu'ont vécu les 150, à l'échelle de la France ? Évidemment, il y a un risque. On parle d'un référendum, on n'est pas, c'est pas un outil qui est sans risque dans notre démocratie. Néanmoins, le pari qui est fait, c'est qu'au vu de l'urgence, on ne peut pas se passer de prendre certains risques, et ce risque-là est à prendre si on veut vraiment accélérer la transition écologique et être à la hauteur de l'urgence scientifique que les 150 ont noté quand les experts du GIEC sont venus leur présenter... l'état du changement climatique.
La réponse, elle se fera en plusieurs temps. Hein, et en attendant ces réponses d'Emmanuel Macron, dans les prochaines semaines, vous donnerez également votre réponse aux réponses. Et je crois que ce sera à la rentrée. Hein. Comment ça va se passer, Mélanie ?
Oui, c'est prévu en septembre. Donc, on verra qu'est-ce qui, d'ici là, les réponses qu'on a. On ne sait pas du tout pour l'instant. Même là, on va à l'Élysée le 29. On ne sait pas quelle réponse on aura, si on va déjà parler du référendum ou non, des mesures envisageables ou non. On attend de voir.
Vous, du coup, vous ressentez comment cette convention citoyenne, même vous, dans votre vie de tous les jours, quand tout sera terminé, et qu'est-ce qui va vous rester ?
En fait, on se dit que le tirage au sort nous est tombé dessus, donc c'était une grosse responsabilité. On l'a fait aussi par civisme. Maintenant, tout ce qu'on a appris... qu'est-ce qu'on en fait ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut le mettre à profit ? Aussi de se dire, tout notre travail, qui est notre bébé, on n'a pas envie de le lâcher comme ça, donc on a envie d'assurer aussi un suivi. Les 150 citoyens se constituent en association, donc ce qui nous permettra d'être déjà de rester en contact entre nous, mais aussi d'être un relais pour répondre aux médias, aux politiques, ou à la société civile, et aussi, surtout, pour pouvoir faire le suivi de nos mesures.
Mathilde Dimmer, qu'est-ce qui restera de cette convention citoyenne dans le pays ? Est-ce qu'on a franchi une ligne ? Est-ce qu'on va vers d'autres initiatives dans ce sens ? Qu'est-ce que ça a changé, cette convention ? On rappelle que c'est vraiment un exercice inédit.
Je crois qu'on a fait un bond en termes de démocratie délibérative. On n'a jamais autant parlé de tirage au sort dans notre pays. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça a démocratisé cette question du tirage au sort. On a vu certains élus s'en saisir pour les municipales. On voit aussi que suite à la convention, il y a des acteurs locaux, des maires, des présidents de régions qui se mettent à faire eux-mêmes leur propre assemblée citoyenne, soit sur la question climatique, soit pour le plan de relance, plan de transformation de leur région. Donc ça, c'est un très bon signal. Ça veut dire qu'on commence ce que j'appelle une mise à jour de notre démocratie. On voit bien que notre démocratie représentative va mal. Le taux d'abstention ne cesse d'augmenter élection après élection. Les populistes montent et grimpent en termes de chiffres élection après élection. Et ça doit nous inquiéter. Donc je pense que cette question de comment le tirage au sort vient compléter une démocratie représentative pour que les personnes qui se sentent mal représentées aujourd'hui aient la voix au chapitre, là, on a fait un bond. La question, c'est est-ce qu'on va aussi faire un bond sur le plan écologique ? Ça dépend vraiment de la réponse qu'apportera Emmanuel Macron et son gouvernement.
Oui, et puis de ces réponses-là dépendront également peut-être les autres initiatives qui arriveront derrière cette convention citoyenne pour le climat.
Exactement, mais en tout cas, ça suscite l'intérêt aussi au niveau européen. les Espagnols ont décidé de lancer leur convention suite à la française, en Irlande également, l'Angleterre en a lancé une, l'Allemagne se pose des questions, le Danemark se pose des questions. Donc, même en Pologne, il y a des villes qui veulent s'en saisir, alors même qu'on connaît les réticences de la Pologne sur les questions climatiques et au niveau de l'échelle de l'Union européenne. Il y a aussi un certain nombre de réflexions au niveau de la Commission et du Parlement. Donc, je ne dis pas que c'est gagné, loin de là, il y a encore beaucoup de travail, mais en tout cas, on voit bien que c'est un outil qui permet de dépasser cette cristallisation, ces crispations entre la question sociale et la question climatique, qui est problématique dans beaucoup de pays aujourd'hui dans le monde, à commencer par les pays européens.
Et puis des outils aussi qui pourront être saisis aussi au niveau local, hein. Ça c'est aussi important et qui pourront inspirer aussi au niveau local. Merci beaucoup Mathilde Himmer d'être venue dans l'Impact Positif. Merci aussi à vous Mélanie. On peut évidemment retrouver toutes les informations sur le site de la Convention citoyenne pour le climat, ainsi que sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'on n'a évidemment pas fini d'entendre parler de cette convention, de ces travaux. Alors très bonne continuation à vous, puis on n'hésitera pas à vous réinviter pour voir ce qui s'est passé dans les prochains mois. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci Sylvia.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à David Führer pour la prise de son. Merci à Jean-François Mompa pour le mixage. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @ipositif au pluriel, ou encore sur mon compte, @sylviamicon. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, impactpositif.podcast, ainsi que sur lci.fr. J'attends vos commentaires, vos suggestions, vos impressions, et si vous avez passé un moment inspirant, n'hésitez pas à nous noter 5 étoiles pour nous soutenir. À très vite pour un nouvel épisode d'Impact Positif.